Nous avons actuellement en cours une série de prédications, une série de quatre prédications pour les quatre dimanches de l'Avent, où nous voulons observer comment ceux qui ont vu l'enfant Jésus ont réagi, comment ils l'ont accueilli, et est-ce que leur exemple ou leur contre-exemple peut susciter aussi en nous une réaction pour l'accueillir aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous voyons deux personnages qui prennent de l'avance. Ce sont ceux qui prennent de l'avance et leur récit nous est rapporté au chapitre 2 de l'évangile de Luc. Donc Luc, chapitre 2, versets 25 à 38. Donc Luc 2, à partir du verset 25. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient l'enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Maître, tu laisses ton esclave s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour la révélation aux nations et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Celui-ci est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction, et toi-même, une épée te transpercera, de sorte que soient révélés les raisonnements de beaucoup. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était très avancée en âge. Après avoir vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, elle était restée veuve. Âgée de 84 ans, elle ne s'éloignait pas du temple et prenait part au culte, nuit et jour, par des jeûnes et des prières. Elle aussi survint à ce moment même. Elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Nous sommes à Jérusalem, nous avons quitté Bethléem. C'est un peu plus tard, un peu après la naissance. En lisant les versets qui précèdent, Matthieu donne des détails sur le contexte. Comme la loi le prescrit, les parents ont fait les choses dans les règles. Jésus a été circoncis 8 jours après sa naissance, comme c'est indiqué dans le Lévitique. Ensuite, il a connu les 8 jours de purification, comme c'est demandé toujours dans la loi, dans le Lévitique. Et ses parents viennent au temple pour offrir un sacrifice. Toutes les règles sont respectées. Même si les parents avaient peu de moyens, hein, quand on étudie le texte, on se rend compte que ce qu'ils offrent, c'est le sacrifice qui est demandé aux gens qui ont peu de moyens, aux gens qui sont pauvres, mais ils tiennent à appliquer la loi pour Jésus. Et ça montre que Jésus a vraiment vécu comme un homme, qu'il a été soumis aux mêmes règles que les hommes de son temps, qu'il les a respectés aussi à travers la dépendance envers ses parents, qui ont pris les choses en main quand il était trop petit pour décider par lui-même. Mais donc nous sommes à Jérusalem et nous allons rencontrer deux personnages. Le premier, c'est Siméon. Alors qui est Siméon? Le texte nous dit que Siméon était un homme juste et pieux. Juste, ça veut dire juste aux yeux de Dieu, lui seul peut déclarer un homme juste. L'Ancien Testament nous l'apprend, nous le dit. L'homme est justifié par l'inclinaison de son cœur. C'est ça que Dieu recherche, même avec les fidèles de l'ancienne alliance, un cœur tourné vers Dieu. Cet homme était juste et pieux, nous dit-on. Pieux, la piété comme une réponse à l'amour que Dieu a pour lui. Eh bien, lui aussi, il utilise son temps, son énergie pour se tourner vers Dieu, pour être présent dans le temple, pour prier, pour méditer. On peut dire, pour utiliser des termes qu'on a utilisés cette année à Clermont-Ferrand, qu'il est consacré, consacré à Dieu. Cet homme attendait la consolation d'Israël. Quelle consolation ! Sans être de grands spécialistes en histoire, les chrétiens doivent savoir qu'au premier siècle, au moment où Jésus est venu, Israël est une province de l'Empire romain, la province de Judée, que Israël et la capitale Jérusalem sont occupées. Et pour un juif, c'est dur. C'est dur, pour un juif comme pour un autre homme, un autre peuple, c'est dur de ne pas être maître chez soi. Et tout le peuple attend le Messie, le Christ. Il attend l'envoyé de Dieu qui va les sauver, les délivrer. On le retrouve dans les écrits de l'époque, il y a une véritable espérance, une véritable attente pour celui qui va les délivrer, qui va mettre les Romains dehors et rétablir Israël. Pour un juif pieux comme Siméon, c'est peut-être encore plus dur, parce que ce pays, cette ville de Jérusalem, c'est des terrains saints, dans lesquels est la présence de Dieu. Et avec la présence d'étrangers, non pas parce qu'ils sont étrangers, mais parce qu'ils adorent d'autres dieux et veulent imposer ces dieux, il y a une profanation sous-jacente de ce territoire qui devrait être saint, mis à part. Il y a une difficulté pour ceux qui veulent adorer Dieu de vivre selon ses règles. Une troisième chose qu'on apprend, c'est que l'Esprit Saint était sur cet homme, que l'Esprit Saint était sur Siméon. C'est particulier. Contrairement à aujourd'hui ou depuis la Pentecôte, l'Esprit Saint est en chacun des croyants. À l'époque, l'Esprit Saint était donné à certains hommes comme une avance de cette nouvelle alliance. Et Siméon en fait partie. L'Esprit Saint était sur lui. C'était un prophète qui parlait au nom du Seigneur, un prophète qui révèle des choses, qui révèle la vérité. Et Siméon avait un rôle particulier. On le voit au verset 27, Siméon avait une mission. Il avait été, je vais relire le verset 27, d'ailleurs ce n'était pas le verset 27, c'était le verset 26, il avait été averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Sa mission était d'être là, de l'attendre et de le reconnaître lorsque le Seigneur lui révélerait. Alors, quand il le voit, il se sent poussé à le prendre dans ses bras et il révèle ce que le Seigneur veut révéler à ses parents et à ceux qui sont là. J'aimerais dire un mot sur les révélations que fait Siméon quand il prophétise sur Jésus. Il ne faut pas penser que ce soit obligatoirement une inspiration spontanée qui vient de Dieu, Dieu qui prend le contrôle de sa bouche et qui y place les mots que Siméon ne contrôle pas. Nous l'avons vu, Siméon est un homme pieux qui a médité les paroles de l'Ancien Testament. Et Siméon connaît ce qu'il attend. Aussi, quand Dieu lui montre, voilà, c'est lui le Messie, il se remémore tout ce qu'il a lu, tout ce qu'il a compris sur ce Messie, et il peut le révéler à ses parents. Alors on va voir un peu ce qu'il révèle. Une chose qu'il dit, c'est que par lui vient le salut. Par lui vient le salut, et on le retrouve dans le psaume on retrouve le psaume 130 qui nous parle du salut. Ô Israël, place ta foi en l'Éternel, car c'est auprès de lui que l'on trouve l'amour. On trouve auprès de lui une parfaite délivrance. C'est lui qui délivrera Israël de tous ses péchés. Tout Israël attend la délivrance, mais la délivrance des Romains. Tout Israël attend un chef militaire qui va rétablir Israël. Mais celui qui a médité les Écritures sait que c'est plus que cela dont a besoin l'homme. Pour la délivrance parfaite, l'homme a besoin d'être délivré de ses péchés. Parce que Siméon sait pourquoi les Romains sont là. Ils le sont parce que le peuple subit la punition de Dieu, punition pour s'être détourné de lui, punition qui est la conséquence de son péché, de la mauvaise inclination de son cœur. Il sait que la véritable délivrance, ce n'est pas de mettre les Romains dehors ou de mettre quelques personnes qui nous persécutent hors d'état de nuire. La véritable délivrance, c'est de supprimer le péché du cœur de l'homme. Siméon nous dit aussi que ce salut est préparé devant tous les hommes. D'autres traductions disent « en faveur de tous les peuples ». On retrouve cette idée beaucoup chez le prophète Ésaïe, par exemple, ce verset « alors la gloire de l'Éternel sera manifestée et tous les hommes la verront à la fois ». Le Messie, celui qui vient sauver, celui qui vient délivrer l'homme de son péché, il est trop grand pour rester cantonné à Israël. Son ministère dépasse les frontières, il couvre la terre entière. Le salut et la délivrance sont complets pour tous. Il est aussi lumière pour les nations. Et on pense encore au prophète Ésaïe, qui écrit, et il a dit aussi, tu ne seras pas seulement mon serviteur pour établir les tribus de Jacob et ramener ceux qui ont persévéré, du peuple d'Israël, car je t'établirai pour être la lumière des nations, afin que mon salut parvienne aux extrémités de la terre. L'idée de ce salut qui est visible par tous les peuples et même poussé plus loin. Car ces peuples aussi sont sous l'emprise du péché. Il n'y a pas qu'Israël qui soit touché. Ces peuples, répartis partout dans le monde, vivent dans l'obscurité. Ils sont aveuglés par l'absence de révélation sur ce qui est bon, sur les moyens d'y parvenir. Ils sont aveuglés. Ils ont besoin de la lumière. Et ce n'est pas un hasard si il y a tant de passages qui parlent de la lumière, Jésus dit qu'il y a lumière, qu'il y a tant de fois où Jésus guérit des aveugles et où tant d'importance est mise sur ces guérisons. Parce qu'il vient apporter la lumière, le discernement au monde. Le Messie sera aussi gloire, gloire de ton peuple. Ésaïe, toujours lui, prophétise « Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. » La gloire du peuple de Dieu. Un si grand salut, un si grand miracle. Dieu qui vient pour supprimer le péché. C'est une œuvre glorieuse. Et cette gloire retombe forcément sur le peuple dont est issu ce Sauveur. Voici pourquoi il sera gloire du peuple de Dieu. Tout cela, c'est merveilleux. Ça fait envie. On comprend l'excitation de Siméon. Mais ça ne se passera pas non plus sans mal. Et Siméon prend le temps de prévenir les parents de Jésus, de prévenir Marie qui est là, de prévenir Joseph qui l'accompagne. de ce que ce sauveur qui vient, il sera aussi une occasion de chute ou de relèvement pour beaucoup. Parce que quand la lumière viendra révéler les œuvres de chacun, on y verra clair sur l'orientation du cœur de chacun et il y aura de mauvaises surprises. Un moyen de chute et de relèvement pour beaucoup. Et on pense au psaume 107 qu'on a déjà étudié ici. Dieu répand le mépris sur les puissants. Il les fait errer dans un désert sans route. C'est lui qui délivre le pauvre de la détresse. C'est lui qui rend les familles fécondes, comme le petit bétail. Pour ceux qui se croient forts, pour ceux qui ont confiance en eux, qui pensent pouvoir se débrouiller seuls, plus dure sera la chute. Alors que ceux qui n'ont rien et qui mettent leur confiance dans le Seigneur, ceux-là seront relevés et traités comme ils le méritent. Alors forcément, ça ne plaira pas, et Siméon le prévient, ce Messie provoquera la contradiction. Il sera combattu. Tous ne l'accepteront pas. Et nous qui avons lu le ministère de Jésus, on comprend ce qu'il veut dire. C'est l'opposition qu'il a rencontrée. On est bien loin du chef militaire attendu quand même. On est bien loin de celui qui va venir avec son panache blanc auquel il faut se rallier pour mettre les Romains dehors, que tout le peuple euphorique suivra comme un seul homme. Non, on est avec quelqu'un qui fera les choses plus profondes, mais qui aussi ne sera pas accepté. Et on le retrouve dans l'évangile de Jean, dans le prologue, quand Jean dresse le tableau de la venue du Seigneur, où il dit que la lumière est venue chez elle et les siens ne l'ont pas accueillie. Je vous ai parlé de deux personnages qui sont là. Et nous les avons lus dans le texte. Le deuxième personnage, c'est Anne. Anne, c'est une femme, une prophétesse, aussi quelqu'un qui révèle la pensée de Dieu. C'est pas quelqu'un de branché, quelqu'un qui attire l'œil. En lisant le texte, je remarquais, c'est quelqu'un elle est restée veuve pendant la majeure partie de sa vie. Elle est aujourd'hui âgée. Elle n'est pas dehors à briller, mais elle reste au temple nuit et jour. Et j'imagine qu'elle peut être parfois l'objet de moqueries, qu'on peut dire d'elle que c'est une grenouille de bénitier. Elle est là, pour son Dieu, et Dieu l'honore. Elle aussi, elle est consacrée à Dieu. Que peut-elle ajouter à ce qu'a dit Siméon ? Pas grand-chose, je crois. Siméon a tout dit, ou presque. Tout, il a prophétisé, annoncé, rappelé, expliqué ce que l'Ancien Testament disait sur ce Messie à venir. Et elle est là, elle confirme. Elle confirme, elle en parle à tout le monde. Elle annonce la bonne nouvelle à chacun de ceux qui sont présents. Elle était là et elle en parle à tous ceux qui attendent la rédemption de Jérusalem. Ceux qui prennent de l'avance. Dans la collection des témoins de la venue de Jésus sur terre, de ceux qui l'ont vu enfant, Siméon et Anne sont ceux qui prennent de l'avance. Ils n'accueillent pas seulement un beau bébé qui se trouve devant eux, parce que tous les bébés sont beaux quand on les voit. Mais ils savent discerner derrière cet enfant l'accomplissement d'une promesse. la promesse de la délivrance complète, pas seulement la délivrance militaire, la délivrance des Romains, mais la délivrance de l'emprise du péché. Une délivrance pour tous les hommes, pas seulement pour Israël, pour tous les hommes, toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre. La promesse de la lumière, qui vient sortir le monde de l'obscurité, qui vient aider ceux qui tâtonnent, ceux qui sont perdus, qui vient aussi apporter le jugement et rétablir la justice, celle que chacun attend. Et nous alors, comment faire le lien entre ces témoins et nous ? Leur situation nous correspond-elle ? Je crois qu'il y a des points communs entre leur situation et la nôtre. Alors, il y a une différence évidente. C'est qu'entre eux et nous, il y a eu le ministère de Jésus-Christ. Tout ce qui a été prophétisé et que Siméon sentait mais n'avait pas vu, nous le voyons à travers ce que nous rapportent les apôtres. Nous avons le recul. Nous avons vu l'opposition auquel Jésus a fait face, le rejet qu'il a eu par les siens. Nous avons vu également sa résurrection et sa victoire. Nous avons vu l'envoi de son esprit et la présence dans les croyants. Mais en même temps, tout n'est pas accompli. Qui peut prétendre que la justice règne aujourd'hui dans ce monde ? Que chacun reçoit selon ce qu'il mérite ? Qui peut dire que nous sommes sortis de l'esclavage, que nous ne subissons plus jour après jour les conséquences du péché ? En fait, nous vivons dans la tension entre le déjà et le pas encore. Le déjà, c'est le déjà que Jésus est déjà venu accomplir. Il est déjà venu, il a payé pour les péchés et ceux qui croient en lui aujourd'hui ont la vie éternelle, aujourd'hui. Ils sont déjà passés de la mort à la vie, commencer cette vie nouvelle. Nous avons déjà l'Esprit en nous qui nous permet d'entamer notre sanctification, de mieux discerner ce que Dieu veut pour nous. Mais nous sommes aussi dans le pas encore. Pas encore parce que nous attendons de le vivre pleinement. Pour cela, nous attendons l'heure de son retour, la seconde venue de Jésus-Christ. Et alors, tout sera complet. Nous attendons le salut complètement, la délivrance définitive de l'empreinte du péché. Ainsi qu'il est écrit, le Christ s'est offert une fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Cette délivrance pleine et entière, arrive avec le retour de Christ. C'est lui la lumière pour les nations. Nous attendons que justice soit faite. Eh bien, ne jugez pas avant le temps. Attendez que le Seigneur revienne. Il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les véritables intentions qui animent les cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. La justice sera faite. Et enfin, ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Et puis ce salut, il est pour tous les peuples. Les chrétiens sont aujourd'hui dispersés, eh bien, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges des quatre coins de l'horizon, d'un bout à l'autre de l'univers. quatre coins de l'horizon seront rassemblés dans la plus grande église que le monde n'ait jamais portée, pour le plus grand des cultes jamais organisés. Celui qui sera fait dans la présence du Christ glorieux. Nous aussi, comme Siméon, comme Anne, nous avons une espérance. Et nous attendons toute notre vie qu'elle s'accomplisse. Et le jour où nous la verrons, nous pourrons avoir la même joie, connaître la même joie que Siméon et Anne. Quelle réaction à la venue du Sauveur ? Siméon et Anne, poussés par l'Esprit Saint, ont une réaction d'enthousiasme, pas seulement pour l'enfant qui est là devant eux et qu'ils admirent, mais aussi d'enthousiasme parce qu'ils voient l'accomplissement de la promesse. Nous aussi, nous avons l'Esprit Saint, écoutons-le. Sachons reconnaître en Jésus-Christ celui qui apporte le salut pour tous les peuples, la lumière des nations. Reconnaissons à travers la Bible, reconnaissons-le, reconnaissons qui il est. Ravivons la flamme de notre espérance en son retour glorieux, non seulement dans ces temps de Noël, où nous avons le souvenir de sa première venue, de l'accomplissement de ses promesses, mais aussi chaque jour. Jésus nous dit « Voici ». « Voici, dit Jésus, je viens bientôt ». Oui, nous sommes dans l'attente de son retour, comme Siméon et Anne. Nous avons sous les yeux, nous avons le Sauveur, mais nous attendons encore la délivrance complète. Puissions-nous, comme eux, vivre notre espérance dans la joie et dans l'enthousiasme. En cette période de Noël et chaque jour. Amen. Je vous invite à chanter « Ô viens bientôt, Emmanuel ».